Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, les résultats, les analyses et bien sûr vos commentaires, chers auditeurs, sur la page Facebook de VOA Afrique. Nos consultants sont là pour vous éclairer. J'ai salué Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, est avec nous. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bienvenue à Kinshasa.
Amine Birouk est en direct depuis Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Avec nous aussi Élisée Ipatine depuis Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Et nous retrouvons Amdine Si à Dakar. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous chers auditeurs de rester à l'écoute. Nous commençons avec les éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Les matchs retour du premier tour de ces préliminaires du CHAN 2020 ont été joués ce week-end. Dans l'affiche de la zone Ouest B, les éperviers du Togo sont venus à bout des écureuils béninois 1-0. On écoute tout de suite l'entraîneur togolais Jean-Paul Abalo.
Je suis très content pour les joueurs, pour les féliciter parce qu'ils étaient vraiment à l'écoute. Ils ont compris qu'ils ont un défi à relever, pas seulement contre leur adversaire, même avec ceux qui les critiquent. Ben, Dieu merci, on a une victoire à vous. On a vu l'adversaire jouer, je crois qu'ils ont posé des problèmes, surtout au milieu du terrain avec un milieu qui décrochait. On a réglé le problème. C'est là que je suis très satisfait parce que les joueurs, ils n'ont pas l'habitude sur le plan tactique de travailler. Donc, pour comprendre, pour assimiler, sur un match, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, ils ont joué avec leur cœur. Je remercie vraiment Claude Leroy pour cette victoire parce que grâce à lui, j'ai fait deux semaines de stage avec les joueurs, sinon ce serait trois jours de stage et je ne pense pas que c'est possible de faire déjà un match nul au Bénin.
Alors, Élisée, ce n'est pas passé pour les écureuils. Élisée, vous m'entendez?
Oui, allô?
Oui, je disais que ce n'est pas passé pour les écureuils.
Oui, oui, le match aller est passé par là. C'est vrai que déjà au stade Charles de Gaulle de Porte Nouveau, les écureuils ils n'ont pas été du tout convaincants, il faut le dire, suite à cette explication décevante de la part de ces joueurs béninois. La qualification était hypothéquée puisque on connaît bien sûr les matchs entre le Bénin et le Togo, on ne connaît pas d'avance le vainqueur. Et une fois encore, hier, au stade Kéké, équipe de Kéké est allumée, renouvée, très joli stade. Complètement rénové, c'était le public béninois qui a effectué massivement le déplacement, était même fédéré par la rénovation complète de ce stade, puisque le stade Bateau-Kérékou de Cotonou aussi est en rénovation et on prie, même le gouvernement a fait pareil. Donc, c'est-à-dire que sur cette belle pelouse, les Béninois ont largement dominé la première partie sans pour autant marquer le but qui pouvait les mettre à l'abri. C'est sans compter sur la maladresse de ses attaquants, notamment Maman Souraka, l'attaquant vedette de BKFC de l'Américain, l'équipe du 70e. Il faut dire qu'il a pesé lourdement sur la défense togolaise avec des joueurs de couloir comme le meilleur buteur du championnat béninois passé, l'attaquant des Panthères de Gougou, Saliou Idrissou, dit Fidelé de vous. Il a plusieurs fois tenté marqué, mais c'était sans compter sur la détermination du gardien de but togolais. Et à la pause, le score était de 0-10 à la reprise. Jean-Paul Abalo a dû changer quelque chose, ce qui a fait que les Togolais ont commencé par menacer, mais c'était pas totalement suffisant pour pouvoir marquer ou pouvoir frapper le gardien de but de l'équipe championne du Bénin, le but de parcours 4 buts. Et c'est ce dernier qui était allé justement à l'aventure. Il n'a pas pu bien apprécier la trajectoire du ballon sur un centre en retrait au second côté. Eh bien, Marouf était passé par là. Il a noté plus haut que les défenseurs béninois pour marquer le but suite à ce coup de tête. Donc, c'est-à-dire que c'est une grande déception puisque les Béninois peuvent mieux faire. Ils ont dominé le match, mais comme on le dit souvent, dominer n'est pas gagner. Même la presse sportive béninoise a même laissé entendre que bon, il aurait pu jouer comme le Bénin l'a fait lors de la dernière CAN jouée et défensive, et pourquoi pas marquer un seul but, mais cette fois-ci, Moussa Lakonji a joué offensive, mais ça n'a pas payé.
Ces leçons-là seront bien sûr pour les prochaines éditions. La Guinée équatoriale est venue à bout du Tchad 2-1 après un match nul de 3-3 à l'aller, donc ce sont les résultats des autres rencontres. C'est passé aussi pour le Zimbabwe, vainqueur 3-1 de l'île Maurice. Madagascar s'en est tiré malgré sa défaite 3-2 devant le Mozambique après sa victoire 3-2 à l'aller. Après sa victoire 1-0 à l'aller, pardon, le Mali a cartonné encore 3-0 face à la Guinée-Bissau après le 4-0 à l'aller. Et malgré son nul 0-0 au retour, la Namibie passe également grâce à sa victoire 2-0 à l'aller devant les Comores. Défait à l'aller 1-0 par le Libéria, le Sénégal a renversé la vapeur 3-0 au retour. Amdine, c'est une bonne remontée pour les Lions locaux.
Tout à fait, Yacouba. Les hommes de Seyss Aliou ont fait l'essentiel en surclassant logiquement leurs adversaires sur le score de 3-0. Une qualification quand même qui a tardé à se décider pour les Lions locaux du Sénégal qui ont attendu la seconde période pour inscrire les 3 buts, car ils ont été inefficaces durant la première période qui a été marquée par un concours de maladresse. Yacouba, tenez-vous bien, le Sénégal a raté 6 occasions durant cette première période, mais heureusement pour eux, les choses ont changé après la reprise, puisque le Sénégal a ouvert le score après seulement 5 minutes de jeu par l'intermédiaire de Jean-Baptiste Diouf, le milieu de terrain de Génération Foot, a crucifié en plein axe le portier libérien. Les Sénégalais, qui ont retrouvé quand même de l'allant, ont continué à dominer cette équipe libérienne, et à force de dominer, ils vont marquer quand même le deuxième but à la 78e minute grâce à Ousseynou Niang qui trompe le portier libérien d'une frappe chef du pied gauche à l'entrée de la surface adverse. À 2-0, la qualification était déjà dans la poste, ce qui a libéré quand même les Lions locaux qui vont sereinement terminer la partie en souffrant même un troisième but pour Abdoulaye Ba. Ce dernier qui est entré en cours de jeu, on l'appelle Bessi, il a donné quand même de l'épaisseur au score des Lions locaux en transformant de fort belle manière un coup franc pour quand même marquer le troisième but sénégalais. Le Sénégal qui compose son but pour le second tour et qui va retrouver la Guinée pour un derby sous-régional. La Guinée qui est quand même un adversaire redoutable, puisque la Guinée a barré la route à 2 reprises lors des 2 dernières éditions. Pour vous dire, Yacouba, un parfum de revanche prend déjà cette rencontre entre le Sénégal et la Guinée-Conakry.
15 pays se sont qualifiés pour le dernier tour qualificatif donc du CHAN Cameroun 2020. Les matchs allés de ce tour-là se dérouleront du 20 au 22 septembre prochain. Les rencontres retour sont prévues du 18 au 20 octobre. Alors, les affiches donnent ceci. Dans la zone nord, on aura Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Alors, Amine, c'est un véritable duel maghrébin pour les Lions de l'Atlas locaux, on va rappeler, champion en titre.
Les champions en titre qui auront un nouveau sélectionneur, puisque la Fédération royale marocaine de football a annoncé que Ousmane Mota, qui avait été l'entraîneur du Wydad de Casablanca, tenant vainqueur de la Ligue des champions de 2017, allait intégrer la direction technique nationale. Une façon pour une autre de préparer l'avenir, l'avenir qui pourrait se décider dans les prochains jours concernant toute la recomposition du paysage footballistique marocain. Quoi qu'il en soit, le tenant du titre aura une mission difficile face à un adversaire qu'il connaît bien. Les duels entre Algérie et Maroc sont souvent des duels âpres, très difficiles. Les dernières confrontations au niveau des clubs ont souvent été à l'avantage des clubs marocains, mais ça ne veut pas dire que les équipes algériennes ou l'équipe algérienne se présentera dans cette confrontation victime expiatoire. L'Algérie aujourd'hui est championne d'Afrique en titre et l'Algérie a une réputation à défendre. Donc, quoi qu'il en soit, nous en saurons un peu plus concernant le nouveau look de cette équipe marocaine, de toute la recomposition du paysage footballistique marocain après le départ d'Hervé Renard. On parle de l'arrivée d'Avaïd Halilhodžić en tant que nouveau sélectionneur national. Concernant les autres catégories, Patrice Baumel devrait prendre, qui a été l'adjoint et le bras droit d'Hervé Renard pendant de très nombreuses années, va s'occuper de l'équipe nationale U23, qui aura une double confrontation cruciale dans le championnat d'Afrique de cette catégorie face au Mali début septembre. Et puis, à la mi-septembre, il y aura bien évidemment cette confrontation avec l'Algérie. Elle sera précédée de la participation du Maroc à un tournoi international qui regrouperait les sélections d'Afrique de l'Ouest à Dakar dans les prochaines semaines.
Merci bien, Amine. Dans la zone Afrique de l'Ouest A, on a Mauritanie-Mali pour le dernier tour donc. Et Amdine le disait, le Sénégal affronte la Guinée. Dans celle hein, de l'Ouest B, le Togo fait face au Nigeria, le Niger à la Côte d'Ivoire et le Ghana s'oppose au Burkina Faso. Dans la zone Afrique centrale, on aura Centrafrique, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Congo. Alors Thierry, ce n'est en principe pas hein, la mer à boire pour les léopards locaux.
Ce n'est en principe pas la mer à boire pour les léopards de la RDC, vous l'avez dit, mais il faut faire très attention car après avoir remporté les éditions de 2009 en Côte d'Ivoire et de 2016 au Rwanda, les léopards se sont cassés les dents face aux Congolais de Brazzaville, à leurs voisins, lors des précédentes éliminatoires, c'était il y a 2 ans, et depuis, la sélection locale est tant veilleuse. Le sélectionneur de l'époque, Mouni Zaïre, a tué l'agent de Florent Ibengue chez le A, a été suspendu et depuis, on n'en parle pas. Et même là, les rencontres se jouent en principe dans une zone et demie, mais aucune allusion n'est faite pour le moment au niveau de la fédération sur le champ, sur la préparation de cette sélection locale. Le championnat n'a pas encore démarré, il démarre le week-end prochain, donc on attend voir un peu, car tout est en jeu depuis la Coupe d'Afrique des Nations. Hein. Les parents ont été éliminés, et puis Constant Marie ne semble pas pressé pour faire une évaluation et décider du sort de Florent Ibengue des différentes sélections, notamment la sélection locale. Donc oui, c'est vrai, les centrafricains sont très abordables pour, par rapport aux léopards de la République démocratique du Congo, qui souvent sont placés en première ligne au champ, mais en République démocratique du Congo, depuis 2 ans, cette sélection, on n'y fait pas allusion, on n'en parle pas, cette sélection n'a aucune activité depuis son élimination en face au Congo-Brazzaville, et ça risque d'inquiéter, surtout que le championnat national ne va démarrer que dans quelques jours.
Merci Thierry. Dans la zone centre-est, on aura Burundi-Ouganda. L'Éthiopie fera face au Rwanda et la Tanzanie jouera le Soudan. Et dans la zone sud, on aura Zambie-Iswatini, Namibie-Madagascar et Lesotho-Zimbabwe. Vous suivez Sporama, suivez Afrique. L'émission revient tout de suite. Vous l'avez suivi la semaine dernière, le TAS, le tribunal arbitral du sport, plus haute juridiction sportive, a annulé la décision de faire jouer la finale retour émaillée d'incidents entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Casablanca en Ligue africaine des champions et renvoyé donc la balle à la CAF. On va simplement rappeler les faits. Le 31 mai dernier, les joueurs du Wydad Casablanca s'étaient retirés en plein match pour protester contre une panne de l'assistance vidéo à l'arbitrage, persuadés que celle-ci aurait pu valider un but refusé par l'arbitre. Après 1h30 d'interruption, marquée par quelques échauffourées et de longues discussions entre dirigeants, les Tunisiens ont été déclarés vainqueurs, mais leur joie a été de courte durée puisque 5 jours plus tard, la CAF a décidé de faire rejouer le match sur terrain neutre. Les deux clubs ont alors saisi le tribunal arbitral du sport pour des appels distincts et une motivation commune, faire annuler la décision et être déclaré vainqueur. Le TAS a constaté, je cite, que le comité exécutif de la CAF s'était auto-saisi d'une affaire qui n'était pas de son ressort et a donc annulé la décision du comité exécutif de la CAF pour vice de forme. Alors, Jules, quelle lecture hein, faites-vous de cette décision du tribunal arbitral du sport?
Oui, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ce tribunal a adopté le principe de Ponce Pilate et se laver les mains et laisser la responsabilité directement à la CAF, quitte à ce qu'il y ait une erreur de, disons que, et qu'il y ait une décision inacceptable pour les uns ou pour les autres. Parce que le problème de fond ici, c'est que ce n'est pas tant l'injustice commise sur le terrain qui est importante, mais c'est surtout la difficulté à faire respecter une décision prise. Et je crois qu'à ce niveau-là, l'Afrique n'est pas la première à être face à un problème comme celui-là. On a eu des cas au niveau du football international, mais même au niveau du football africain, dans le passé. Mais quand une décision est prise, que l'on reste ferme vis-à-vis de cette décision, je crois qu'on a renvoyé tout simplement la balle à la CAF. Et peut-être que cette CAF qui est en train d'être prise un peu sous tutelle et va s'arranger d'une manière ou d'une autre à faire respecter tout simplement la loi.
Alors, dans sa décision, le tribunal conclut que le comité exécutif de la CAF, convoqué d'urgence un début juin à Paris, je le cite, n'était pas compétent pour décider de faire jouer ce match-là. Alors, Amine, la CAF dit qu'elle va se réunir à cet effet, en principe, cette semaine. La question que l'on se pose, c'est quel est l'organe compétent de la CAF qui devrait revoir cela et à quoi faut-il s'attendre?
Il n'y a qu'à se référer, Yacouba, à l'énoncé de la sentence du tribunal arbitral du sport. Il s'agit du comité disciplinaire. Et donc, aujourd'hui, c'est la commission de discipline qui va se réunir en principe mercredi pour pouvoir trancher cette affaire épineuse, sachant que cela ouvre, quel que soit son verdict, la porte à un appel, puisque en deuxième instance, c'est la commission d'appel de la CAF pourrait se saisir de ce dossier avant un éventuel retour au tribunal arbitral du sport. Mais pour revenir au fait, l'Espérance du Tunis a souhaité avoir, je dirais, baser sa défense ou sa requête sur trois principes. Primo, que le comité exécutif de la CAF n'était pas compétent en la matière, ce dont a statué le TAS. L'Espérance souhaitait être déclaré vainqueur et garder la prime de 2 millions d'euros qui échoue au vainqueur ainsi que les médailles. La réponse, on ne l'a pas dans le verdict. Et puis la troisième chose, bien évidemment, c'est que si le TAS devait trancher en faveur d'un éventuel match à rejouer, qu'il puisse reprendre à partir de la 58e minute et que ce soit à Tunis. Donc visiblement, ces deux alinéas n'ont pas été traités. Aujourd'hui, c'est un retour à la commission de discipline de la CAF. C'est un retour qui va être basé maintenant sur le fond, puisque le fond n'a pas été traité par le comité, par le tribunal arbitral du sport. Et donc, on va se référer au rapport du commissaire du match, au rapport de l'arbitre de la rencontre, au rapport du commissaire de sécurité. Et visiblement, on n'aura que deux éventualités. Soit infliger à nouveau camouflé Ahmed Ahmed à son comité exécutif et donc déclarer l'Espérance de Tunis gagnante, ce dont je doute fort, ou bien corroborer cette décision en sachant bien évidemment que cela peut ouvrir à l'Espérance de Tunis une éventualité d'appel au prix de la commission d'appel de la CAF, donc voir un retour au tribunal, ce qui signifierait tout simplement que cette affaire risque de durer beaucoup plus longtemps que prévu.
Alors, si le tribunal n'a pas désigné de vainqueur, il a en revanche d'ores et déjà débouté le Wydad de cette demande, être désigné vainqueur et empocher la prime à 1000, disons, le rappelait tout à l'heure. Tandis que pour ce qui concerne les revendications de l'Espérance de Tunis, en dehors bien sûr de la volonté de voir cette décision de la CAF annulée, ce qui a été fait par le TAS, alors le TAS dit qu'il va examiner la suite des revendications de l'Espérance de Tunis. Alors, Thierry, est-ce à dire que d'ores et déjà, le Maroc, en fait, on va dire le Wydad, pas le Maroc, pourrait à la limite obtenir de la CAF que cette finale soit rejouée?
C'est difficile à dire pour le moment, d'autant plus que vous l'avez souligné, la décision du tribunal arbitral du sport en elle-même ne permet pas de lever des équivoques. Elle rouvre, on va dire, elle nous renvoie en notre courant de débat. Et pour le moment, il est très, très, très difficile de dire que le Wydad pourrait espérer quoi que ce soit. Quand bien même cela va dépendre pour le moment, selon ce que j'ai compris du communiqué de la Confédération africaine de football, donc de l'organe fêtier du football continental. Mais je doute fort et je trouve très difficile pour le moment que le Wydad puisse avoir raison. Mais bon, on va croiser les doigts et observer ce qui va se passer, car avec tout ce qui s'est passé, et Amine le rappelait si bien, on est très 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 loin d'une sortie de tunnel et cette affaire risque de durer encore beaucoup plus longtemps que ce qu'on imaginait.
Alors, le tribunal, je poursuis, dit préparer une sentence finale tout en tenant compte de la décision éventuelle prise par la CAF dans cet intervalle. Et donc Amine le disait, la CAF va se réunir probablement mercredi. Est-ce qu'en quelque sorte le TAS ne se réserve pas le dernier mot après la prochaine décision de l'organe compétent de la CAF? Élisée.
Bien évidemment, il faut le dire, puisque d'ailleurs, le président de la Fédération royale marocaine de football India, dans une interview, l'a souligné, il a dit, bon, il a demandé même au WIDAD de se préparer pour une éventuelle rencontre à rejouer, et qu'il mettrait tout en œuvre pour que ce match soit rejoué. Il pourrait même, s'il le faut, perdre sa place pour que justice soit faite. Donc, c'est dire que quelque part, il fait partie du comité exécutif de la Confédération africaine de football, quelque part. Bon, il peut être informé que réellement ce match sera rejoué. En tout cas, on attend mercredi prochain pour être vraiment fixé. L'expérience de Tunis l'a fait savoir si la CAF demande que ce match soit rejoué, eh bien, elle va ressaisir de nouveau le TAS. C'est-à-dire que, selon le communiqué, on a dit que le TAS a émis quelques réserves, puisqu'il a énuméré. Bien évidemment, il a permis, bien sûr, à la CAF de prendre une décision. Maintenant, cette décision finale lui reviendrait nécessairement si, entre-temps, la CAF de Philippe Bien, l'instant qui gère la Ligue des Champions, décide bien évidemment de faire jouer ce match. En tout cas, on attend mercredi prochain pour être vraiment fixé.
On attendra de voir tout cela, et sans transition, nous allons parler de l'Afro-basket féminin qui avance à grands pas. La compétition aura lieu à Dakar du 9 au 18. Du 10 au 18 août prochain, qui succédera donc aux 10 Tigers du Nigeria. La réponse au soir du 18. Alors, Amdine, pour l'heure, ce qu'on sait, c'est que le tirage au sort a été effectué.
Oui, le tirage au sort a été effectué et ça fait que le Sénégal, vice-champion d'Afrique, partage la poule A en compagnie de la Côte d'Ivoire et de l'Égypte. Et le Nigeria, tenant du titre, se retrouve dans la poule B avec la Tunisie et le Cameroun. L'Angola figure dans la poule C en compagnie de la RDC et du Mali. Et enfin, au niveau du groupe C, on retrouve le Mozambique qui partage cette poule avec le Kenya et le Caver. En fait, la FIBA a changé de formule en Yakuba en lieu et place de deux poules. Il y aura donc trois poules de quatre équipes quatrième édition de l'Afrobasket.
Amdine,
et cette nouvelle formule donc de trois équipes, contrairement à ce qui s'est passé au Mali. Donc les premiers sortent directement pour se qualifier en quart de finale. Les deuxièmes et troisièmes vont jouer comme les huitièmes de finale. C'est une sorte de barrage avant de trouver les quarts de finaliste. Ensuite, on aura quart de finale, deux finales et finale pour ce tournoi d'Afrobasket, la 24e édition Yakuba.
Alors, Amdine, vous le disiez, et donc la FIBA Afrique, bien sûr, a donné quatre poules de trois, et donc c'était juste un rectificatif. Alors, Thierry, les Léopards locaux ont récemment remporté la première édition de l'Afro-Basket, de l'Afro-CAN au Mali, s'agissant bien sûr du basketball masculin. Peut-être que c'est une sorte de montrer la voie aux dames.
Absolument, les dames qui ont démarré les entraînements dans des conditions difficiles, mais avec une lueur d'espoir suite aux promesses du président de la République qui, le samedi dernier, a reçu les Léopards vainqueurs de la première édition de l'Afro-CAN. Le président de la République qui a promis de construire une grande salle de sport pour permettre notamment la pratique du basketball et d'autres disciplines sportives en salle, en plus d'un grand centre d'entraînement pour permettre aux Léopards de bien s'entraîner. Alors, les démarches sont très avancées, selon ce que Félix Tshisekedi a promis aux Léopards. Et donc, c'est une lueur d'espoir également dans la prise en charge de ces Léopards basketball dames qui, je les rappelle, s'entraînent encore ici. Ils avaient eu du mal à se réunir, une partie de la délégation ou une partie des présélectionnés traînait encore à Lubumbashi, une autre ici à Kinshasa. Mais là, ça y est, la Fédération basketball du Congo a essayé de mettre tout le monde ensemble et la vraie préparation a démarré avec des matchs amicaux avec quelques clubs de Kinshasa.
Alors, Jules, ce tournoi de pré-qualification est une étape indispensable, on va dire, en vue d'une qualification pour les JO Tokyo 2020. Il faudra peut-être être calculateur à un certain moment donné dans la compétition.
Oui, bien sûr. Il faudra d'abord chercher à être premier dans sa poule et pour ainsi éviter et de faire une compétition trop longue et en même temps peut-être se payer un adversaire moins main fort à la seconde étape. Donc, c'est une question de stratégie également. Et même et dans tous les sports, d'ailleurs, dans toutes les compétitions, les équipes africaines ne comprennent pas souvent qu'on est dans une compétition, ce n'est pas une confrontation directe où on laisse ses plumes sur une seule rencontre. Il faut gagner les rencontres si on doit gagner. Donc, je crois que la stratégie sera importante pour ceux qui veulent aller le plus loin possible.
Alors, Amdine, très rapidement, en 20 secondes, en prélude à la compétition qui aura lieu à Dakar, il y a un tournoi international de basketball féminin qui s'achève aujourd'hui même, si ce n'est déjà fini.
Tout à fait. Ça fait aujourd'hui, il reste un dernier match, le Sénégal qui doit jouer l'Égypte. Sachez que l'Angola vient de battre tout de suite la Côte d'Ivoire sur le score de 69-64 et l'équipe nationale du Sénégal est en train de réussir son tournoi puisqu'elle a battu la Côte d'Ivoire 70-61 et elle a battu encore l'Angola 88-69.
Merci bien Amdine Si depuis Dakar. Donc Sporama qui s'achève ici, à la réalisation Michel Joseph, à la consonne Wojtek Zoniak, Yacouba Ouidraogo devant ce micro. On se retrouve la semaine prochaine.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.